Bonjour à tous. Ce matin, je continue avec la série d'études que nous faisons le dimanche matin, donc avec les psaumes. Et ce matin, donc après avoir fait le psaume 3, eh bien je vais traiter le psaume 4. Et pour introduire ce psaume, je vous propose d'écouter un petit extrait audio que peut-être les alors j'allais dire les plus âgés reconnaîtront, mais moi je le connaissais, donc c'est que c'est pas forcément si vieux que ça. José, si tu peux l'envoyer, donc je te dirai quand t'arrêter. Synchroniser avec Thomas pour parler de comment trouver le bonheur. Et donc là, dans ce sketch là, c'est ce gars là il est heureux même en étant cantonnier et en n'ayant pas grand chose. Et donc je vais lire le psaume 4, et cette idée du bonheur, c'est la clé en fait que j'ai trouvé, disons, pour partager le sens de ce psaume. Donc je lis dans la traduction du Semeur, donc le psaume 4. Au chef des chœurs, un psaume de David à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Toi qui me délivres de la détresse, Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous les hommes, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent « D'où nous viendra donc le bonheur ?» Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont jamais, quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. L'idée du bonheur que nous recherchons tous. Et ce psaume en donne un peu une définition. Il en donne aussi un mode d'emploi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai. C'est comme ça que je l'ai lu. Il nous montre comment trouver ce bonheur, et ce mode d'emploi, il est assez simple. Il nous montre que nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître Dieu et nous devons nous saisir de ses promesses. Connaître, comprendre et saisir. C'est le mode d'emploi que nous donne ce psaume. Je commence au premier verset. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Toi qui délivres de la détresse, Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. David interpelle Dieu alors qu'il est écrasé. Littéralement, la détresse, c'est en hébreu, à cet endroit-là, c'est être à l'étroit, être écrasé. Et le salut que Dieu apporte, c'est de donner de l'espace et de la place. David interpelle ce Dieu. Il l'interpelle comme étant le Dieu de sa justice. Et Dieu est juste. Là, David l'interpelle parce qu'il est pris à partie par ses ennemis, et il s'attend à ce que Dieu distingue ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu voit qui fait le bien et Dieu voit qui fait le mal. Pourtant, appeler à la justice de Dieu, c'est quelque chose qui est risqué. Et pour David, comme pour nous, Le mal n'est pas absent de nos vies. Alors appeler à la justice pourrait être un danger pour nous. Mais David se saisit de cette justice de Dieu et il s'en saisit en appelant à sa grâce. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Ma relation à Dieu est fondée sur sa grâce, puisque je sais que je ne peux pas accomplir sa justice. Eh bien, mon espérance est que la justice de Dieu passera dans sa grâce et que cette grâce agira pour moi. Dans le deuxième verset, David interpelle les hommes de son temps. Et il leur dit, homme, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Poursuivre le vent, d'autres traductions disent chercher la vanité. Le discrédit sur mon honneur, l'humiliation que David a vécue dans sa vie. La vanité, l'humiliation, le mensonge. Ce texte a été écrit il y a 4000 ans, et pourtant il est toujours autant d'actualité. Les hommes ont toujours humilié ceux qui étaient différents. La nature humaine a toujours poussé à rechercher ce qui est vain. Et pourtant. J'ai l'impression que notre temps connaît une accélération de cette tendance-là. L'humanité a connu différentes révolutions, hein. L'imprimerie, la machine à vapeur, les communications, les télécommunications, et bien sûr maintenant on est dans une révolution numérique. Tout le monde le sait bien. Et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une révolution dans notre façon d'être en relation les uns avec les autres. Alors là, je parle à des gens qui probablement, je connais pas forcément tout de vos vies, mais je pense pas que vous soyez tous très branchés Facebook ou Twitter. En tout cas, moi, je ne suis pas beaucoup. Les plus jeunes, peut-être, c'est quelque chose qui vous concerne davantage. Mais malgré tout, ces réseaux sociaux sont une caisse de résonance pour cette façon de fonctionner. Bon, évidemment, tout n'est pas mauvais là-dedans, mais ça révèle d'une façon multipliée cette tendance à humilier ceux qui ne pensent pas comme la majorité. Et en lisant un peu les nouvelles, on s'aperçoit que à chaque controverse, à chaque polémique, les injures, les mises au banc se multiplient. Ceux qui essayent d'exprimer un point de vue différent sont attaqués, insultés. Et là, ça se fait plus à l'échelle des quelques personnes que nous pouvons connaître. Ça se fait à l'échelle quasiment planétaire. Où des millions d'individus peuvent attaquer, insulter celui qui ne pense pas comme eux. Et effectivement, les insultes et les injures prennent des proportions incroyables, incroyables. Et cette vanité dont parle David. Là aussi, ce mode de communication le met encore plus en avant. On sait bien que Facebook est une source de dépression pour beaucoup, parce que ce qu'on montre sur son mur, c'est essentiellement ses réussites et tout ce qui va bien et tout ce qui est beau et qui marche bien dans sa vie. Et donc, en regardant la vie des autres, on a l'impression que tout est merveilleux. Et quand on compare à la sienne, on se dit comment. Moi, tout n'est pas merveilleux. Ma vie n'est pas faite de ciel bleu, de voyages et de réussite. Donc cette vanité est multipliée par dans notre nouvelle société. Et quand David parle du mensonge, et bien évidemment, cette vanité affichée est accompagnée d'un mensonge énorme qui est de faire croire que tout ça est la, que tout ça est la réalité. Et ce qui est intéressant dans la façon dont David présente le problème, c'est qu'il pose une question. Il demande pas pourquoi. Pourquoi est-ce que vous humiliez? Pourquoi est-ce que vous recherchez ce qui est vain et ce qui est mensonger? Il demande pas pourquoi. Il demande jusqu'à quand? Jusqu'à quand marcherez-vous sur ce chemin? Les raisons qui nous font marcher sur ce chemin, finalement, elles importent peu. Elles sont plus ou moins différentes pour les uns et pour les autres. Mais la véritable question, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux pour vous rendre compte du vide et de la vacuité qu'on peut trouver sur ce chemin? À quel moment allez-vous vous décider à marcher contre le flot, à changer de direction? Bon, je l'ai dit, hein, mais donc les réseaux sociaux sont pas mal en soi. Et je pense que la question, c'est de se demander si on peut, si on est capable de nager contre le flot, dans un flot aussi puissant que celui de la société de communication dans laquelle on vit. Ça demande une énergie et une volonté très grande et aussi d'avoir ouvert les yeux sur la réalité et sur la réalité telle que Dieu la présente. Et dans le verset suivant, David nous parle de cette réalité différente de celle que le monde connaît. Et il nous dit, sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle. Il m'entend quand je l'appelle. Cette autre réalité, c'est que Dieu m'a choisi. Et il m'a choisi pour que je lui sois fidèle. Alors évidemment, ce choix de Dieu, ça a une conséquence sur mon identité, sur qui je suis. Ça a une conséquence sur ma sécurité, parce que ça renverse ma façon habituelle de voir les choses. Habituellement, c'est moi qui choisis, en fonction du degré de contrôle que j'ai sur ma vie. Je choisis qui, avec qui je vis. Je choisis quoi, ce que je fais, ce que j'achète, ce que je consomme, je choisis quand. Et là c'est le contraire, là c'est moi qui suis choisi. C'est moi qui suis choisi par un Dieu dont je sais que lui est fidèle, dont je sais que lui, il ne m'abandonnera pas. Et ce Dieu veut que moi aussi, je sois fidèle, que moi aussi je rentre dans une relation qui plonge ses racines profond dans mon identité, dans ce que je suis, dans ce que je fais. Quand je comprends cette réalité, quand je m'en saisis, alors je crie à Dieu. Alors je crie à Dieu. Et je lui crie sur ce que je suis. Je lui demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je lui demande pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ou ça est arrivé? Pourquoi je souffre? Pourquoi un autre souffre? Et David nous dit, mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Dieu n'évite pas le conflit. Dieu, il est prêt à entendre. Et dans ce psaume, David répète que Dieu entend, qu'il écoute, Dieu entend notre colère. Quand nous sommes en conflit avec lui, il est prêt à écouter et à entendre ce que nous avons sur notre cœur. C'est lui qui nous a choisis. Et ce choix remet en cause notre façon de comprendre notre liberté. Ça remet en cause notre identité. Ça remet en cause notre façon de fonctionner. Et bien sûr, nous sommes en difficulté. Nous sommes en conflit avec cette nouvelle façon de fonctionner. Et Dieu entend ce conflit. Et David nous dit, mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Dans un conflit, il faut pas tourner le dos. C'est vrai dans nos couples. Il faut pouvoir écouter, il faut pouvoir exprimer, et il faut pouvoir aussi écouter. Quand je me saisis du fait que Dieu m'a choisi et qu'il m'entend, si je m'en saisis, alors je suis capable aussi de me taire. Je suis capable aussi de me taire et d'écouter parce que Dieu me répond. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. José, est-ce que tu peux passer le petit extrait vidéo que j'avais mis de côté? Donc là aussi, vous allez reconnaître. Alors, c'est en anglais, hein. On verra si vous arrivez à comprendre ce que... Jour ramasser de l'argent. Being greedy, greedy, je sais même pas comment vraiment le traduire en français, mais l'amour de l'argent, là, pas forcément l'avarice, c'est pas qu'il veut pas en dépenser, c'est qu'il veut en amasser, le plus possible. Et cupidité, voilà, cupidité, c'est ça, la cupidité. Bon. Et il promet qu'il va être cupide aussi pour les autres. Bon, ça, on verra. L'amour de l'argent, le fait de vouloir plus. Thomas nous en a parlé un peu aussi ce matin, vouloir plus, mieux, plus grand, plus beau, plus ce qu'on veut. On peut se penser plus ou moins détaché de ça ou immunisé contre. Et moi, j'ai vécu une petite expérience il y a quelques mois qui m'a montré que j'étais pas si fort que ça. Vous avez peut-être entendu parler du Bitcoin. Alors, hein, ça vous parle peut-être un petit peu. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Donc une crypto-monnaie, je rentre pas dans les détails de ce que c'est, mais en tout cas, bon, voilà, quelque chose dont la valeur a été multipliée par 5, par 10 au courant de l'année. Bon. Et donc j'avais un ami qui m'en a parlé, qui m'a dit, ah, vas-y, là, c'est le moment d'acheter. Bon, pourquoi pas, j'avais un petit peu d'argent de côté, je me suis dit, bon, tiens, on va essayer. Bon. Ok, j'en ai acheté. Alors c'est très rigolo à utiliser ça, hein, parce que c'est complètement virtuel, donc c'est rattaché à personne, hein, quand on achète ou qu'on vend ce genre de choses, personne se retrouve au chômage. Bon, a priori on se dit moralement c'est neutre. Bon. Et puis bon, voilà, donc on a les courbes, hein, vous avez vu vous imaginez, hein, les courbes de marché, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc le but du jeu, c'est d'acheter quand c'est en bas et de vendre quand c'est en haut. D'abord, bon, je suis amusé. Et effectivement, c'est bon, comme ça a passé, comme ça a monté, bah, au bout d'un moment, j'ai fini par gagner de l'argent. Et bon, je me disais, bon, ça va. Et à un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte que mon humeur faisait suivait plus ou moins les courbes du Bitcoin, en fait. Hein. Quand ça descendait, quand ça montait. Et là, je me suis rendu compte que c'était qu'il y avait quand même quelque chose qui avait quelque chose qui allait pas. Il y avait quelque chose qui allait pas. Parce que j'ai repensé à ce passage qui parle de l'amour de l'argent, du fait que cet amour nous éloigne de Dieu. Je repensais à ce passage de l'Évangile où Jésus nous dit tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Et je me suis rendu compte que c'est ce que j'étais en train de faire. Ma joie était liée au à, à la au fait de gagner de... Alors évidemment, je gagnais de l'argent sans rien faire, et c'était grisant, et voilà. Et donc du coup, je me suis dit, bon là, je m'engage sur une mauvaise voie. Et bon, donc j'ai vendu tous mes bitcoins, et puis j'ai donné une partie de cet argent. Je l'ai donné. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen de j'ai envie de dire de briser la puissance de l'argent, c'est de le donner. Donc, bon, je me suis détaché de ça, et en faisant ça, ça m'a permis aussi de faire un choix, de faire le choix de dire bon, si je renonce à cet argent facile, et puis bon, c'est même renoncer finalement à la richesse. Parce que vous savez, hein, fois 1, fois 2, fois 10, vos vaches cochons couvées, et puis à un moment donné, on s'imagine avec des millions d'euros qui dorment sur... À un moment donné, faut... Voilà, le fait de vous dire, ben non. Je veux prendre un autre chemin, renoncer à cette indépendance factice, et dire, bon bien, maintenant, je veux me confier en l'Éternel. Quel que soit ce qui est... devant moi, quels que soient les besoins de moi, de mes enfants, de ma famille, je veux me confier en l'Éternel. Offrez des sacrifices qui soient conformes à ce que l'Éternel attend, et confiez-vous en l'Éternel. Je lis au verset 8, « Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont jamais, quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. » La joie. Et là, il est parlé de la fête des moissons, la fête quand le vin nouveau coule. Il parlait de la réussite quand la moisson abonde, quand les greniers sont pleins, d'un accomplissement. On a réussi ce qu'on avait entrepris. Alors évidemment, de nos jours, on fête plus les moissons. C'est pas tellement ça qui nous qui remplit justement nos comptes en banque. Malgré tout, on a des alors bien sûr, on a des fêtes. On a des réussites qui nous apportent de la joie quand on réussit ses examens, quand on a accompli quelque chose dans son travail ou dans ce qu'on a fait avec ses mains, avec d'une façon ou d'une autre, quand on arrive à accomplir quelque chose, on en retire de la joie, et il n'y a pas de mal à ça, c'est bien d'être heureux, d'accomplir quelque chose. Mais on voit bien que cette joie, elle est limitée, et puis elle est éphémère. C'est une joie qui doit être toujours renouvelée, la réussite doit se répéter et se répéter pour que cette joie puisse être vécue. Et la joie dont parle ce verset, eh bien, c'est pas la même. C'est pas la même. Et David nous dit qu'il a plus de joie que tout ce qui est apporté dans ces moments-là. Et je me suis demandé de quelle joie est-ce que David est en train de parler. Et peut-être que la réponse est différente pour chacun d'entre nous, mais en tout cas, pour moi, la joie dont parle David, dans ma vie, je l'identifierai à de la reconnaissance. Être reconnaissant de tout ce que Dieu a accompli et dont David parle dans ce psaume. Sa grâce pour moi, parce que il ne m'a pas condamné quand je le méritais. Sa fidélité. Il m'a choisi et il est resté fidèle à ce choix, même quand moi j'ai été infidèle. Sa présence, parce que j'ai toujours pu me tourner vers lui, quelles qu'aient été les circonstances. Il a toujours été là, et il a répondu quand je l'ai appelé. La reconnaissance pour chacune des choses qu'il m'a donné, pour tous les jours de bonheur que j'ai pu vivre avec ma famille, mes enfants, avec mon église. Chacune de ces choses-là que Dieu m'a données et que je ne méritais pas. Chacune de ces bénédictions. Et quand je réfléchis à ma vie, c'est ce sentiment-là qui domine. La reconnaissance, la gratitude pour tout ce que Dieu a fait. Et cette gratitude-là, justement, ne dépend pas des circonstances. Et quelles que soient les réussites ou les échecs, cette reconnaissance pour tout ce que Dieu a accompli reste présent et reste indépendant de ce qui peut m'arriver. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Ce thème du sommeil et de la sécurité revient plusieurs fois. On l'a déjà lu dans les psaumes qu'on a étudiés précédemment. Le sommeil, c'est vrai que c'est un moment de faiblesse, un moment de lâcher prise, où la question de la paix et de la sécurité se révèle. Et c'est vrai que être en sécurité au moment où on s'endort, on peut arriver à le réaliser par les moyens humains, on va dire. Pourtant, ce sommeil, je pense, est aussi une image de la mort. On parle souvent du sommeil comme une petite mort. David nous dit, grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Et c'est vrai que seul l'Éternel peut nous donner la sécurité quand nous pensons à la mort, quand nous l'affrontons pour nous-mêmes ou pour ceux que nous aimons, ceux qui nous sont proches. L'Éternel seul est celui qui donne cette paix et cette sécurité face au passage vers l'au-delà. Alors je vais m'arrêter là dans ce psaume qui nous parle de cette recherche du bonheur. Et donc je vous laisse cette exhortation à connaître Dieu, à connaître ce Dieu qui vous a choisi. Je vous encourage à vous saisir de ses promesses, à vous saisir de ce qu'il est pour que ça devienne une réalité dans votre vie et dans vos choix. Et je termine donc en lisant le verset 7 qui est au milieu de ce psaume. Ils sont nombreux ceux qui demandent d'où nous viendra donc le bonheur. Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable et que notre vie en soit illuminée, alors que la lumière de l'Éternel puisse briller sur votre bonheur.